20 часов в Париже.
В Париже, он идет к термометру.
Да-да, c'est rond, puis c'est beau, c'est l'air.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Ce soir, pour la rédaction brésilienne, c'est avec Lucia Nuzel. Où la violence avec le Brésil, où la violence frappe une fois de plus. Ladan Firouzbar, de la rédaction Persane, pour la sécheresse qui frappe l'Iran.
Salam.
Et puis Natalia Olivares, de la rédaction en espagnol.
Buenas tardes.
Pour une rencontre avec une femme sans papier qui siège désormais dans les plus hautes instances en Californie. Bonsoir à vous toutes. Mais revenons d'abord sur la nouvelle attaque terroriste qui a frappé la France à Carcassonne et Trèbes, 4 victimes dont les funérailles ont eu lieu cette semaine, en plus de l'hommage national rendu au colonel Beltrame. Il en a largement, très largement été question dans les médias français, mais également ailleurs dans le monde. Natalia Olivares, c'est le cas dans le monde hispanophone.
Et oui, le monde hispanophone a vécu à travers les médias tous les épisodes du dernier attentat de Trèbes, Trèbes, si on le prononce à l'espagnol. On a reçu de nombreux appels à la rédaction Amérique latine, de la part de radios, de télévisions qui nous ont demandé de décrire cette ambiance étrange dans laquelle la France s'est plongée le jour de l'attentat et ensuite lors de l'hommage aux victimes et au colonel Arnaud Beltrame, qui lui aussi est devenu très très connu en Amérique latine au même titre que cette ville, Trèbes. Même si nous nous sommes concentrés sur les faits, les hommages et l'enquête en France, certains médias hispanophones, eux, se sont concentrés aussi sur la partie espagnole de l'affaire.
Partie espagnole, c'est-à-dire ?
Alors justement, Redouane Lakhdim, donc l'attaquant, le djihadiste, avait, avant de faire cette prise d'assaut dans ce supermarché de Trèbes, dans le sud de la France, a fait plusieurs séjours en Espagne où il était connu des services de police pour trafic de drogue. Les autorités espagnoles se sont expliquées à ce sujet. Lakhdim était bien localisé et fiché par les services, mais non pas comme terroriste, et cela a permis justement de soutenir la thèse selon laquelle les djihadistes étaient directement liés aux filières du crime organisé et des trafiquants de drogue en Europe.
Alors cet attentat a très vite été revendiqué par l'organisation de l'État islamique, appelée aussi Daesh, Ladan Firouzbar.
Oui, même si Daesh n'y a pas organisé de nouveaux attentats comparables à ceux de Paris en novembre 2015, même si l'affiliation Daesh est en arrière-plan de la tragédie de Nice le 14 juillet 2016, il faut surtout redire que l'idéologie de Daesh reste présente en France et selon le procureur de Paris, le niveau de la menace terroriste n'a pas faibli en France. Pendant les 3 dernières années, à chaque fois, les liens directs entre les auteurs des attentats en France et Daesh ont fait l'objet d'enquêtes pas toujours concluantes, bien que le profil des auteurs de ces actes se ressemble terriblement.
Alors la fin du califat a été annoncée par le premier ministre irakien, mais ça ne veut pas dire, Ladan, pour autant que l'on en a fini avec des attentats en Europe.
Exactement, selon le directeur du renseignement intérieur américain, Daesh a toujours l'intention et la capacité de diriger, faciliter, soutenir et inspirer des attaques transnationales. Plus de 700 adultes français ont été recensés par les services de police comme opérant encore dans les zones contrôlées par Daesh. Plus de 250 individus seraient rentrés en France. Plus de 1500 radicalisés dangereux sont suivis par la police. Alors, la réalité prouve que la menace de Daesh perdure en France. C'est pourquoi le troisième plan de déradicalisation annoncé en février reste un chantier très ardu.
Autre chose, si l'organisation de l'État islamique est en passe d'être éradiquée de Syrie et d'Irak, il est présent ailleurs, il a eu le temps de se déployer dans une quinzaine de pays, Yémen, Égypte, Afghanistan.
Exactement, oui. Alors que Daesh a perdu son califat en Irak et en Syrie, l'organisation djihadiste recentre ses activités en Afghanistan. Des combattants, dont des Français venus de Syrie, y ont déjà installé des bases. Pour la première fois, la présence des combattants français de Daesh dans des bases implantées en Afghanistan a été confirmée en décembre dernier. Plusieurs djihadistes français ont été tués en Afghanistan par l'armée au cours d'une opération soutenue par l'OTAN dans le nord du pays au mois de janvier. Ce sont le premier combattant français de Daesh tué sur le sol afghan. Et la semaine dernière, une djihadiste française a été arrêtée lors d'une opération au nord de l'Afghanistan selon les les sources afghanes.
Lucia Mouzel, malgré l'actualité brûlante au Brésil, dont nous reparlerons plus en détail dans quelques instants, est-ce que nos auditeurs brésiliens se sont intéressés à ce nouvel attentat?
Écoutez Philippe, comme vous le dites, c'est vraiment l'actualité interne liée à la crise politique qui fait la une des journaux brésiliens depuis longtemps, dès 2015-2016. Il faut vraiment que se passe quelque chose de très très grave à l'étranger pour attirer l'attention des médias brésiliens. Et c'était le cas cette fois, vendredi dernier, jour de l'attentat à Trèbes. Nous avons passé la journée à faire des directs supplémentaires pour nos radios partenaires au Brésil. Nous avons suivi donc de près cette nouvelle tragédie, notamment car cela faisait un moment que la France n'était pas la cible du terrorisme, on le rappelle. Les dernières attaques avaient eu lieu en octobre 2017 à la gare de Saint-Charles de Marseille, où deux jeunes femmes ont été tuées. Et après, en avril 2017, quand un gendarme a été abattu sur les Champs-Élysées, ici à Paris.
Nathalie Olivares, l'Espagne, on en parlait tout à l'heure, l'Espagne est aussi frappée régulièrement par le terrorisme. La dernière fois, c'était à Barcelone et à Cambrils, où 16 personnes sont mortes, c'était l'été dernier. L'Espagne qui paie un lourd tribut en Europe au terrorisme.
Et oui, et l'attentat de Trèbes en France s'est produit justement au même moment où l'Espagne commémorait les attentats du 11 mars, il y a 14 ans, les attentats del 11M, comme on les appelle en Espagne. À ce moment-là, trois bombes avaient alors explosé en même temps à trois endroits différents, bilan 191 morts. Voilà pourquoi Trèbes a eu un écho particulier en ce mois de mars espagnol. Et à ce moment même, un groupe du Parlement européen publiait aussi le livre Noir et blanc du terrorisme en Europe, un groupe parlementaire lié aux familles des victimes des attentats et particulièrement de l'ETA, ce groupe armé indépendantiste basque. Selon leurs chiffres répertoriés entre 2000 à 2017, l'Espagne compte 260 victimes, la France 254, l'Angleterre 120, la Belgique 36 et l'Allemagne 29. En tout, un peu plus de 700 personnes ont été assassinées en Europe depuis l'an 2000. Dans ce livre ne figureront pas évidemment, Philippe, les quatre victimes de ce vendredi dernier à Trèbes.
Alors le terrorisme, on le sait, a eu un impact sur l'image de la France et le tourisme en a souffert. Les Brésiliens ont toujours aimé visiter notre pays, Lucia Mouzel. Est-ce que c'est toujours le cas?
On a constaté une baisse de la fréquentation des Brésiliens en France, comme toutes les nationalités étrangères depuis les attaques de 2015. C'est curieux parce que les Brésiliens sont habitués à une violence inouïe au niveau national, avec des chiffres de criminalité énormes. Mais pendant un certain temps, ils ont eu effectivement peur à mettre les pieds dans Paris par peur d'un attentat. Mais cette page semble être tournée. Il suffit de se promener dans le centre de la capitale pour entendre le portugais brésilien partout. C'est l'un des chiffres des 2017 des représentants du secteur, la France a retrouvé le même niveau de fréquentation touristique d'avant les attentats de 2015. Et les Brésiliens, ils sont là.
Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
This is Radio France International.
Paris, RFI,
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous maintenant à des sujets plus particulièrement traités par les rédactions en langue étrangère de RFI. Pour ce qui est du Brésil, c'est un pays en crise depuis des mois, crise sociale, crise sécuritaire, crise politique et toujours cette violence endémique à un peu plus de 6 mois d'élections générales âprement disputées. Lucia Mouzel de la rédaction brésilienne, justement, cette semaine, c'est la campagne de l'ancien président Lula qui a été la cible d'un attentat.
Exactement, Philippe. Mardi soir, l'avant-dernier jour d'un tour que Lula faisait dans le sud du Brésil, son équipe a été la cible de 3 tirs qui n'ont pas fait de victimes. Mais cela montre à quel point la radicalisation de la politique brésilienne a atteint un niveau très dangereux. On craint effectivement que cette campagne présidentielle soit marquée par une violence inédite depuis le retour de la démocratie il y a 33 ans, surtout que la réaction des opposants de Lula n'a pas été très apaisante, ce qui accentue bien sûr cette ambiance de violence. Le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro, par exemple, c'est le deuxième dans la course pour la présidentielle selon le sondage. Il a commémoré cette attaque et le candidat conservateur Geraldo Alckmin a fait une déclaration très ambiguë là-dessus. Il a dit que Lula a récolté ce qu'il a semé.
En tout cas, une attaque qui a eu lieu à peine deux semaines après le meurtre de la conseillère municipale Marie Franco, assassinée à Rio, qui a provoqué un large émoi jusque dans le monde entier. Et ce, malgré l'intervention militaire actuellement dans la ville de Rio pour tenter justement d'assurer la sécurité.
Tout à fait. Je vous rappelle que Marie Franco dénonçait les dérives de la police et les violations des droits humains dans les favelas. Et 15 jours après sa mort, personne n'a pas encore été arrêté ou même pas inculpé dans cette affaire. Une des pistes, c'est que les miliciens au sein même de la police, c'est-à-dire des policiers très corrompus, qui soient impliqués et les combattre, c'est un des enjeux de cette intervention fédérale de l'armée à Rio. Mais pour le moment, cette opération n'a pas donné de vrais résultats. Certains spécialistes du Brésil, tels que l'historienne française Maud Chirio, craignent même que cette opération ne serve que pour remettre l'armée au cœur de la politique au Brésil, comme c'était le cas pendant la dictature. On l'a interviewé cette semaine, on l'entend.
C'est bien possible, dépendant de divers facteurs de la stratégie.
Elle dit donc qu'il est possible que selon l'évolution de cette violence pendant la campagne électorale, que le gouvernement envisage d'instaurer un état de siège au Brésil, ce qui engendrerait bien sûr la suspension de certains droits constitutionnels et une participation plus importante des militaires dans la vie politique brésilienne désormais. C'est en effet très préoccupant.
Revenons-en à la présidence, au président Lula qui veut à nouveau être président. Son sort dans cette élection sera joué la semaine prochaine.
Voilà, le 4 avril, la Cour suprême va prendre sa décision concernant le recours présenté par l'ancien président dans lequel il demande de rester en liberté tant que tous les recours possibles contre sa condamnation ne seront pas jugés. Une décision négative ouvrirait donc la voie pour qu'il soit incarcéré rapidement, ce qui pourrait compromettre bien sûr sa candidature à la présidentielle. Dans ce cas, l'ancien maire de São Paulo, Fernando Haddad, serait son remplaçant, mais pour l'instant, il refuse ce scénario et apporte son soutien à Lula. On l'écoute dans une interview faite par téléphone cette semaine aussi.
Non, nous travaillons avec la possibilité de gagner.
Alors, que vous a-t-il confié?
Il explique que le Parti des travailleurs compte toujours sur une victoire en justice la semaine prochaine et sur le dépôt de la candidature de Lula au mois d'août, comme prévu. Il s'est dit certain que la justice sera sensible aux arguments techniques et juridiques de la défense de Lula et refuse pour l'instant donc de parler de son éventuelle présentation. Et je vous souligne, Philippe, que selon tous les sondages et sous tous les points de vue différents, Monsieur Lula reste le favori dans cette élection.
Ouais, ce qui risque de compliquer les choses considérablement entre le temps médiatique et le temps juridique.
Exactement.
Lucia Mouzel de la rédaction brésilienne de RFI. Faisons maintenant connaissance avec Lisbeth Mateo. Aux États-Unis, elle est la première femme latino à accéder au Sénat de Californie. Et en plus, elle n'a pas de papier en règle. Natalia Olivares, RFI, a pu lui parler.
Et oui, ça pourrait être de la fiction, mais c'est bel et bien vrai. D'ailleurs, on a la preuve puisque elle a accepté d'être sur nos antennes. Mais juste avant de l'écouter, juste dire que donc elle est mexicaine, elle a 33 ans, elle est arrivée aux États-Unis alors qu'elle avait 14 ans et depuis elle a toujours été indocumentada, comme on le dit en espagnol, donc sans papier. Et malgré ça, comme des milliers de Dreamers, elle a étudié à l'université américaine et a obtenu son diplôme d'avocate. Elle milite en faveur des droits des migrants et aujourd'hui elle est conseillère pour les jeunes défavorisés au sein du Sénat de l'État de Californie. On l'écoute.
Que dit donc cette femme?
Eh bien, elle est très critique, bien sûr, en ce qui concerne la politique anti-immigratoire de Donald Trump, mais elle accuse aussi beaucoup Barack Obama d'avoir déporté massivement les étrangers. En gros, Donald Trump suit, selon elle, la politique de son prédécesseur en matière d'immigration, mais avec toutefois un élément en plus, celui de promouvoir la peur des migrants et la stigmatisation. Et là, on l'écoute à la question de savoir s'il y aura plus de répression. Elle répond que rien ne changera avec Donald Trump, sauf peut-être la médiatisation des déportations et des opérations anti-immigrants.
Petite précision sur les attributions de Lisbeth Mateo.
Alors, il faut préciser qu'elle est, disons, nommée au sein d'une commission chargée de l'accès à l'université des jeunes issus de milieux à bas revenus. Ce n'est pas une fonction publique, Philippe, et elle ne perçoit aucun salaire pour ce travail. Et autant dire que sa nomination a été évidemment vivement critiquée et a fait l'objet de beaucoup d'attaques racistes.
Au-delà du personnage et du caractère insolite de cette nomination, quel est le message envoyé au gouvernement Trump?
Alors clairement, c'est un pied de nez au président. président Donald Trump, Kevin DeLeon, le président du Sénat californien qui lui-même a désigné Lisbeth Matteo, a déclaré que pendant que Donald Trump fait une fixation sur les murs, la Californie, elle, continue à se concentrer sur les opportunités pour tous. Rappelons que cet État s'est déclaré État sanctuaire en septembre 2017 et que la nomination de Lisbeth Matteo s'est produite 2 jours après la visite de Trump dans cet État. Donc, ça peut être pris comme une provocation. On peut l'écouter une deuxième fois.
Que dit-elle sur Trump?
Alors, elle dit que le mur de Donald Trump, que Donald Trump veut construire au long de la frontière ne changera absolument rien. Les personnes continueront à passer cette frontière à n'importe quel prix, prenant peut-être plus de risques, mais ce mur est clairement un caprice qui, d'ailleurs, divise même le camp républicain, selon ses propres paroles. Pour terminer, Philippe, on peut dire que c'est une manière, une fois de plus, de prouver l'indépendance de cet État dirigé par les démocrates vis-à-vis de l'administration de Donald Trump.
La Californie, qui est vraiment un État indépendant et qui milite activement contre la présidence Trump. C'était Natalia Olivares de la rédaction en espagnol de RFI. Et puis maintenant, intéressons-nous à l'Iran et à une crise autre que diplomatique ou politique. Ce pays souffre en effet d'une crise, d'une grave sécheresse, qui est un véritable problème environnemental, à tel point que l'Iran a besoin d'aide, Ladan Firouzbar.
Oui, d'abord, je vous dis que les Iraniens viennent de fêter le Nowruz, marquent le nouvel an et le début du printemps dans une zone géographique très étendue, comprenant entre autres l'Azerbaïdjan, l'Inde, l'Iran, le Kirghizistan, le Pakistan, la Turquie et l'Ouzbékistan. Ils fêtent chaque 21 mars, date calculée et fixée à l'origine en fonction des études astronomiques, mais depuis plusieurs décennies, l'Iran est en proie à de nombreux challenges économiques, politiques et environnementaux majeurs. Parmi eux, l'Iran est confronté à un adversaire absolument redoutable, le climat. La situation de sécheresse se poursuit du nord au sud du pays. Entre changement climatique, sanctions internationales, exploitation agricole critiquable, gestion de l'eau déraisonnée, l'Iran est pour la première fois face à un adversaire qu'il ne peut plus combattre seul dans une région où la plupart des relations sont déjà très tendues sur la question de l'eau. Il se pourrait bien que l'Iran apporte également son petit grain de sel dans le mois à venir.
L'eau qui restera un problème et qu'il a été longtemps. Ça a été au cœur des histoires
persanes. Exactement, les civilisations perses ont très souvent été à la pointe des avancées techniques et architecturales pour permettre une gestion raisonnée et adaptée de cette ressource très demandée. Les Khanats sont des réseaux souterrains vieux de 2700 ans, déclarés patrimoine mondial par l'UNESCO en 2016. Cependant, l'explosion démographique et les besoins en agriculture ne permettent plus à ces systèmes de fournir assez d'eau pour toutes les nouvelles demandes. D'après les experts, l'homme et la gestion de l'eau déraisonnée sont les premiers responsables. Je vous propose à écouter Nicolas Kossa, journaliste et expert en gestion des ressources hydriques et que je l'ai interrogé la semaine dernière.
Que vous a-t-il dit?
Il a estimé que le challenge auquel a fait face l'Iran pendant ces dernières années ne repose pas que sur le changement climatique et la manque de pluie. La gestion déraisonnée des dirigeants iraniens est la cause majeure de cette catastrophe.
Depuis le début du mois, les manifestations d'agriculteurs se succèdent à Ispahan avec pour slogan une question simple: où est passée notre rivière? Que pouvez-vous dire là-dessus?
Oui, la situation de sécheresse qui se poursuit également dans la province Ispahan, avec 95% de la zone affectée par la sécheresse. Ces fermiers sont au chômage technique car il n'y a plus assez d'eau dans le réservoir pour satisfaire l'intégralité des demandes. Aujourd'hui, le pays ne peut plus gérer la situation par lui-même et il demande l'aide des Nations Unies.
Et alors justement, je vais vous dire de qui elle peut venir. Donc c'est l'ONU.
C'est l'ONU pour les aider à investir dans la préparation et renforcer la résilience des agricultures, et c'est essentiel pour faire face à ce problème majeur dans le pays.
Et le gouvernement d'Hassan Rouhani semble avoir pris conscience de l'enjeu, puisqu'il
a adopté un programme d'interdiction des puits illégaux et de modernisation du système irrigation, mais quand même, il faut l'aide.
Ladan Firouzbar de la rédaction persane de Radio France Internationale. Merci à vous tous pour cet éclairage sur ce qui fait l'actualité du monde. C'était Accent du Monde sur Radio France Internationale. We'll be right back.